Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
Surpris par la nuit, raison de plus, Philippe Solers par Alain Weinstein, en 2000. Nous avons rendez-vous avec un artiste de la vie pour qui écrire et vivre ne font qu'un. Il n'écrit pas de poème, dit-il, car c'est la vie qui doit être poétique. Il relit Rimbaud, poète de l'amour, il parle d'habiter poétiquement l'existence. C'est Philippe Solers, donc, et si la poésie des poèmes est inutile, mais alors pourquoi le roman ne l'est-il pas? Philippe Solers revendique d'être auteur de romans et la question aurait peut-être dû lui être posée. C'est effrayant l'état dans lequel est la poésie en France, dit l'auteur. Il définit son roman Passion fixe, paru chez Gallimard, comme un vrai roman et non pas comme les productions préfabriquées que vous trouvez en librairie. C'est donc le roman qui doit être poétique. Quoi qu'on en pense de la valeur du distinguo, la fiction seule intéresse l'auteur, s'inventer soi-même. Et sait-on qui écrit ce qui veut s'écrire?
Surpris par la nuit.
Nous avons rendez-vous avec Philippe Solers, qui décrit une autre façon d'être et de vivre dans son nouveau roman publié chez Gallimard, Passion fixe, que le narrateur, sous le contrôle sans doute de l'auteur, résume ainsi pour faciliter la tâche du critique. Les repères historiques ne manquent pas dans ce curieux récit où le narrateur va, vient, fait l'amour, paraît avoir des vertiges, s'entend très bien avec deux femmes de caractère, a des extases intermittentes, rédige des notices pour un éditeur scientifique, lit, écoute de la musique, se promène, dort, essaye de semer ce qu'il appelle les agents de la surveillance planétaire, les marchés financiers, entre autres commentaires, celui-ci, l'entreprise est peut-être plus profonde et pernicieuse qu'elle n'en a l'air. Dérisoire, c'est entendu, peu susceptible d'un succès populaire, mais attention, ce type a l'air obstiné, on ne sait quelle vitamine asiatique l'anime, le mieux serait d'ailleurs de ne pas en parler du tout. Avec Philippe Solers, pourtant, jusqu'à minuit, nous tenterons de rompre la loi du silence. Il y a quelques minutes, Philippe Solers, tout en lisant mon chapeau, je me demandais comment j'allais commencer cette émission, cet entretien avec vous. En fait, il y aurait beaucoup de débuts possibles. Je ne sais pas trop lequel choisir. Je me demande si toute l'émission ne devrait pas être une série de débuts. Il y en a un, en tout cas, qui m'a été donné par la relecture de L'année du tigre, votre journal de 1998, publié au Seuil et qui vient de reparaître chez Gallimard dans la collection Folio. À la date du 14 avril...
Dans la collection Point Seuil.
Ah oui, la collection Point, pardon. Oui, Folio, c'est un autre nom. Mais...
ne vexons pas les éditeurs.
Oui, oui. Folio, c'est Casanova. Casanova l'admirable. Bon, publié tellement de livres qu'on finit par s'y perdre. Donc, le 14 avril, dans l'année du tigre, en Point Seuil, on peut lire cette notation. On ne devrait jamais commencer une conversation avec quelqu'un sans lui demander s'il souffre. Vous ajoutez, on n'entre jamais dans la douleur d'un autre, sauf sadisme, et encore, dans son plaisir parfois, plaisir, douleur, les seuls problèmes philosophiques sérieux.
Ben, je vous demande si vous souffrez.
Oui, mais c'est avec vous que je parle.
Oui, mais c'est moi
c'est
qui formule
là-dedans. C'est pas vous qui parlez avec moi.
Si, je suis en train de parler avec vous, et en effet, je trouve que c'est une demande...
C'est une bonne question.
C'est une demande légitime. On devrait sinon la formuler, du moins essayer de deviner ce qui est, dans quel état de souffrance ou de douleur physique se trouve l'autre. Et évidemment, la conversation qui s'ensuit ne peut pas être tout à fait la même si vous sentez, parce que vous le savez déjà, ou si vous devinez... que quelqu'un se trouve en train de souffrir d'une rage de dents, à peine surmontée, d'une sciatique profonde, un mal de dos, ou de vertige combiné, etc., etc., etc. La souffrance morale étant d'ailleurs aussi quelque chose d'aigu. Mais je crois qu'en effet, c'est la souffrance physique qui doit être le premier souci. Je crois qu'elle est inutile, qu'on s'acharne par exemple souvent à maintenir des gens en vie. C'est un sujet qui vient dans l'actualité assez souvent. Faut-il ou non, même à la demande de quelqu'un qui n'en peut plus de douleur, accéder à sa demande d'arrêter cette torture. Vous rappelez le mot célèbre de Kafka qui n'en pouvait plus à son médecin. Si vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin. Il m'est arrivé d'avoir des souffrances physiques extrêmement violentes, donc avec intervention nocturne du médecin. Et je vois la gêne, enfin la réticence souvent de donner le produit qu'il faut, c'est-à-dire disons la morphine, n'est-ce pas. Il y a ces petites mallettes qui circulent dans la nuit dans une grande ville avec des hôpitaux qui clignotent de façon violette un peu partout avec des gens qui ont très très mal, et lorsque on demande, parce que vraiment on n'en peut plus, qu'on a envie de se cogner la tête contre un mur ou de se jeter pour en finir, lorsqu'on demande l'intervention de la morphine, souvent il y a comme une sorte d'hésitation du médecin, enfin sous prétexte, n'est-ce pas, que vous deviendriez à partir de là morphinomane. Il y a eu un colloque sur la douleur justement auquel j'ai participé exprès pour ça, c'est-à-dire vraiment les cancers en phase terminale, etc. Je crois que c'est très important pour de définir bien les choses au départ, parce qu'après, vous savez, il y a tellement de bavardages, de psychologie inutile, qu'il faut aller droit à la sensation. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la douleur ne pourra pas non plus parler du plaisir, par définition. Ce sont les deux bords, voilà. Donc... il faut savoir si on est en train de souffrir ou pas. La souffrance physique étant la chose, à mon avis, la plus respectable du monde. Une des rares choses que je serais amené à respecter.
Oui. Mais il y a d'autres types de souffrances pour un écrivain. Je ne parle pas de l'angoisse devant la page blanche.
Oui,
mais...
ça, c'est pas mon genre. Oui.
Non, enfin, encore que...
Non, je demande devant la page blanche, je sais pas.
Il n'y a pas de page blanche, oui. Mais il y a peut-être un peu de souffrance parfois. Et je me demande si, par exemple, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, dans les librairies où on organise des signatures, l'écrivain ne souffre pas aussi.
Là, il ne faut pas exagérer. Je dirais plutôt que c'est souvent un sentiment d'ennui, de temps lourd, d'accablement, de temps perdu. Et lorsqu'on publie un livre, bien entendu, eh bien on est loin de la page à écrire. Et pour un écrivain, s'il n'a pas écrit un petit peu suffisamment dans une journée, c'est comme s'il n'avait pas vraiment respiré. Mmh. Donc c'est en effet plutôt ce qui m'arrive ces jours-ci, mais ça va revenir très vite.
Il y a un spectacle de la souffrance qu'il faut savoir donner avec art. Et justement, dans l'année du tigre, un peu plus loin, je suis tombé sur une phrase de Nietzsche que vous citez, intitulée « Savoir souffrir en public ».
Oui, c'est pour désarmer un petit peu l'adversaire. Il est vrai que la ruse consiste quand même, de temps en temps, à calmer la conscience de l'autre en lui faisant même une petite simulation de souffrance. Pourquoi ? Parce que c'est très, très... Là encore, on tombe sur ces questions fondamentales, c'est-à-dire la souffrance des autres. J'ai dit que moi, elle me paraissait quelque chose à quoi il ne fallait pas toucher, mais en revanche, elle est très appréciée. Enfin, c'est-à-dire, enfin, il souffre. Il y a quelques articles là sur Passion Fixe qui m'amusent, parce que il y a ceux qui voudraient absolument déchiffrer dans ce livre une inquiétude, une terreur, une angoisse, quelque chose comme le gouffre qui m'habiterait, alors que je passe mon temps à décrire le contraire, c'est-à-dire l'affirmation et la positivité la plus intégrale.
Oui, mais à force de décrire, on finit par laisser un doute. On sait bien que
il faut
le clou.
Il faut dire que quelqu'un qui orchestrerait son existence comme un plaisir continu provoquerait probablement un agacement, enfin une colère considérable chez ses semblables supposés.
Enfin, pour Nietzsche, la souffrance qu'il faut savoir donner en public est destinée aussi à calmer,
c'est ça.
Envieux et les méchants.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il faut avoir l'air désarmé, angoissé, embarrassé. Il faut avoir l'air de douter. Enfin, même si c'est pas le cas, il faut jouer un peu jouer cette comédie si on veut qu'il n'y ait pas cette révolte immédiate que ressentent les humains. En effet, devant quelqu'un qui c'est très mystérieux, devant quelqu'un qui irait bien, tout simplement, pour qui tout tournerait plutôt bien.
Mais franchement, les envieux,
c'est méchants, mal vu, quoi.
Ne se prive pas de l'être à votre endroit, vous le savez bien. Et dans l'année du tigre que je cite depuis le début de cette émission, vous le dites vous-même. Par exemple, ce passage-là qui est de décembre 98. Pour la plupart des universitaires, je suis mort après 68, mais je vois que dans des histoires plus ou moins officielles de la littérature française, je vis encore en 1973, grâce à la publication de H et au colloque de Cerisy sur Artaud et Bataille. Ensuite, je disparais pour ne ressurgir qu'en Renégat ou en Traître, avec la publication de Femmes en 1983. Là, le glas est définitivement sonné, et je n'ai donc rien publié depuis 15 ans. Pour avoir une telle vision falsifiée de l'histoire, il faut de l'estomac. Les militants en ont. Ouais. Et vous annoncez la liste de vos prochaines publications. Passion Fixe, donc le roman dont on va parler tout à l'heure. La guerre du goût 2, avec des textes sur Cézanne, Bacon, Hemingway, Picasso, etc. Plus, sans doute, dites-vous, deux ou trois surprises.
Et je termine en disant quoi ?
Désolé.
Sorry.
Ouais. Les surprises, alors ?
si je les énonce maintenant, ça n'en sera plus, mais il y en aura. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire, il est étrange que... Et je me prête aussi à ce malentendu, bien sûr. Il est étrange qu'on fasse d'un écrivain quelqu'un qui n'écrirait, qui n'aurait rien écrit et rien publié. C'est étrange. Il faut alimenter cette passion dénégatrice.
D'autres, peut-être moins universitaires, comme Roland Barthes, en 1979, tentaient pourtant une sorte de rappel à l'ordre.
Oui, c'était déjà là. Oui, mais
N'oublions pas Solers.
Oui, c'est N'oublions pas Solers, on ne dit jamais qu'il écrit. C'est drôle. Barthes avait, qui était un sociologue extrêmement subtil, averti qu'il faut relire pour ça, notamment Mythologie, par exemple. Ne serait-ce que ce livre-là, eh bien, il avait déjà deviné qu'il allait se passer avec moi quelque chose de très étrange, comme une sorte de surestimation de l'image et de dénégation de l'écrit. Voilà. Mais après tout, les livres s'entassent. Voilà.
Et les gens méchants et envieux ne vous empêchent pas d'être tranquilles et heureux dans votre fort intérieur, au point certains jours, à en croire votre journal, de vous complaire dans l'admiration des rosiers dont vous comptez les fleurs. D'autres jours, du spectacle de la pluie, du tonnerre, de la foudre au-dessus des toits, et d'autres jours encore, de voir tomber des phrases de romans d'une écriture presque automatique.
Oui. Il y a beaucoup de différences entre ce qu'on paraît et ce qu'on est. Vraiment. Il y a des gens qui vous diront, Solaire, il est incapable. C'est un infirme de la sensation. Il est incapable. J'ai lu ça récemment dans un journal de quelqu'un qui a publié ses écrits. Enfin, c'est son journal. C'est un infirme de la sensation. Il est incapable de se... tenir une heure sur une plage ou de méditer une heure en forêt ou n'importe quoi, des conneries de ce genre. Vous voyez. Bon, une sorte de parisien typique, de dandy, de superficiel. Voilà. Donc je n'aurai pas le sens de la nature. Voilà. Ce qui prouve qu'aucun livre n'a été ouvert parce que vous avez les tartines de description. D'état de sensible dans la nature, mais c'est pas grave tout ça.
Donc quand
ce qui est écrit, mais on ne peut rien faire contre ceux qui se projettent dans votre image, si je peux dire.
Quand on parle de vous, et on parle beaucoup de vous, c'est rarement de l'écrivain dont il est question.
C'est ça. Et puisque vous citiez Nietzsche, un beau mot de lui que j'aime beaucoup, c'est on parle beaucoup de moi, mais personne ne pense à moi.
Faut dire que vous avez pas mal brouillé les pistes.
Il y a intérêt.
On vous a assez reproché de,
oui,
de changer votre fusil d'épaule.
Il y a intérêt à provoquer des reproches successifs et changeants, d'ailleurs.
Mais on a opposé les livres que vous avez publiés au Seuil, puis ceux que vous avez publiés chez Gallimard, à partir de Femmes. Et Philippe Forest, qui vous connaît bien, qui a préfacé la réédition de Vision à New York, qui est un historien de tel quel aussi, parle d'une solidarité de fond unissant justement ces deux séries de livres, c'est-à-dire Femmes et Paradis, pour résumer, H et Portrait du joueur aussi bien, et les autres romans qui ont suivi, Le cœur absolu, Les folies françaises, Le lys d'or, La fête à Venise, Le secret, Studio. Studio qui est un livre que vous aimez bien.
Il y a 3 ans, oui. C'est un roman sur le à propos de la poésie. Vous voyez là, c'est un problème qui me touche beaucoup parce que la misère actuelle de la poésie. Il y a un article là aujourd'hui de Michel Deguy dans Libération qui se rend compte brusquement que les poètes s'assemblent et vont dire des petits poèmes, on va écrire des petits poèmes avec le Fouquet, etc. Il y a cette ambiance de la poésie, tout le monde est prêt à célébrer la poésie ici. C'est effrayant l'état dans lequel se trouve la poésie, le poète. Alors je trouve que pour bien faire sentir ça, il faut quelque chose qu'on appelle le roman, du moins la façon dont je le traite, pour faire sentir à quel point la misère poétique du monde dans lequel nous vivons est intense, y compris sous sa forme d'esclavage du poète, etc., enfin, à qui on donne comme ça une toute petite prébende, hein, une sorte de, pour qu'il se tienne tranquille et qu'il fasse le poète, le poète servile, le poète qui a renoncé à la révolte. Enfin, du moins, ce que devrait être la grande poésie. Voilà. Alors, j'écris par exemple, Studio, c'était un livre là-dessus, pour reprendre la question de Rimbaud, de Hölderlin, justement, pour montrer qu'au fond, on n'avait pas vraiment encore lu Rimbaud. Alors, il est beaucoup question de Rimbaud, vous savez. Rimbaud, qui ne connaît pas Rimbaud. Il y a des jeunes gens qui se sont abusés à recopier les illuminations à la machine à écrire, à l'envoyer à des maisons d'édition. Et elles ont été refusées partout, bien que, voilà, ils n'avaient pas mis que c'était de Rimbaud. Sur Rimbaud, à mon avis, il y a beaucoup d'autres choses à dire qui n'ont jamais été dites. Personne, avant que j'en fasse état de façon précise dans Studio, n'avait lu le journal de Vitali Rimbaud, que pourtant vous avez en Pléiade en 1874 à Londres, cette sœur qui est morte avant lui, et ça dit énormément de choses sur Rimbaud. On parle toujours de Rimbaud Harare, de Rimbaud Labarre, de Rimbaud opéré vivant de la poésie, comme dit Mallarmé, mais on devrait considérer ça avec beaucoup plus de sérieux, de même les lettres de la mer, avec cette histoire extraordinaire de nettoyage de tombe, bon, etc. Hölderlin, c'est pareil. On n'avait pas vraiment, je pense, jusqu'à Studio, lu avec attention les lettres dites de la folie d'Hölderlin, c'est-à-dire les lettres envoyées à sa mère, etc. Alors, ce sont deux choses que j'ai essayé de bien comprendre. comment que les poètes sont désignés à la vindicte, à la vengeance, à la haine mortelle des mères. Vous vous rappelez sans doute comment commencent les Fleurs du Mal de, par Bénédiction de Baudelaire, n'est-ce pas? Bon, le bûcher consacré au crime maternel. La mère est furieuse d'avoir mis au monde ce bubon empesté qui est, par un décret des puissances suprêmes, hein, de, est un poète. Bon. Mmh. Alors les poètes et leurs mères, je crois que c'est à la fois comique et tragicomique et tout à fait à envisager avec radicalité. C'est la question des mères de Goethe, des mères qui veulent absolument qu'on ne sorte pas d'elles. Eh bien, les poètes me semblent avoir renoncé à se libérer de cette affaire. Et donc, comme elle est sociale aussi, familiale et sociale, la famille étant devenue la société étant une grande famille, désormais, planétaire, là, on n'est pas sorti de l'auberge.
Non, mais là, parlant des poètes, vous parlez de leurs journaux et de leurs correspondances et pas de leurs poèmes.
Si, si, je parle aussi de, très précisément d'Une saison en enfer, pas lue d'après moi, parce qu'on peut montrer les contresens très très précis sur Une saison en enfer, et puis Les illuminations, bien sûr, et par exemple, regardez la différence qu'il y a entre... Ah. Elle y retrouvait quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Ça, c'est le poème de Rimbaud. Il se reprend, il se corrige dans Une saison en enfer. Elle est retrouvée quoi ? L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Bon. Il y a eu quelqu'un, j'ai mis en exergue de studio, j'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun élude. Ça, c'est la correction qu'introduit Rimbaud dans Une saison en enfer. Il n'y a pas vraiment de livre là-dessus. C'est très important, la publication qu'a voulu Rimbaud avec Une saison en enfer. C'est un livre toujours méconnu. Pourquoi Une saison en enfer, etc. Ça n'est pas vraiment compris. Ça n'est pas encore pris. Et donc c'est d'une telle importance, bien que ça ait plus d'un siècle, que je crois qu'il faut s'y attarder. Alors tout le monde m'a dit, mais c'est pas j'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun n'élude. C'est j'ai fait la magique étude du bonheur que nul n'élude. Parce que ça a l'air de sonner mieux. C'est... Mais non, lui, il a voulu dire que qu'aucun n'élude. Mais qu'aucun, c'est... Voilà, il faut... Vous savez, la poésie, il faut écouter chaque syllabe, chaque mot, et rentrer dedans.
Ben oui, donc, je ne dirais pas le contraire. Hein.
Voilà, il faut avoir, faut avoir de l'oreille.
Mais alors, Philippe Soler, j'ai sous les yeux le dernier numéro de L'Infini, la revue que vous dirigez chez Gallimard. Et je dois dire qu'à l'exception de François Cheng, qui est au sommaire, de Michel Deguy, mais qui ne donne pas de poème, je ne vois pas beaucoup de poèmes.
Mais oui, parce que je suis assez hostile à la forme dite poème. Je trouve qu'elle ne convient plus vraiment. Elle n'est pas convaincante. Il faut être dans la poésie et violemment dans la poésie d'une autre façon pour montrer justement que la forme poème ne convient plus. Voilà, les lignes inégales, etc. Tout ça, le jeu avec ça, la misère éditoriale qui est là pour sanctionner. Cette espèce de camp dans lequel on rassemblerait les poètes, tout ça me paraît révoltant.
Oui, mais vous pouvez en publier dans votre collection.
Oui, mais je les trouve pas bons en général. Voilà, c'est ça.
Alors c'est en réponse à cette misère de la poésie dont vous avez parlé.
Poésie de la misère, misère de la poésie, ça, il faudrait reprendre des formules de Marx, misère de la philosophie.
Que vous prononcez dans une jeune revue, Ligne de risque. Un éloge de la richesse.
Oui, ça c'est très à contre-courant. C'est justement, je ne fais pas l'apologie de la misère.
Et vous ne faites pas non plus l'apologie
la richesse
du capital.
Sens, la richesse est bien entendu au sens spirituel du mot. Voilà. Parce que la misère, c'est avant tout la misère spirituelle. C'est pas la misère de l'argent. Je n'ai pas l'éloge du capitalisme financier à l'époque où nous vivons.
Non.
Loin de là, puisque je l'attaque constamment, précisément, alors qu'il est l'emblème même d'une grande misère spirituelle.
Rien n'est plus convoité, dites-vous, là, dans ce numéro de Ligne de risque. Halluciné. Que la richesse, personne n'a le droit de dire le contraire. Ce n'est pas du capital que je parle, ni des individus qui l'instrumentalisent ou le brûlent. Ceux qui manipulent l'argent sont fondamentalement aimés. On fait semblant de les haïr, mais au fond, on les aime. On les jalouse, c'est tout.
Oui.
Ce que la métaphysique ne tolère pas, c'est le fait qu'il y ait du destin, c'est-à-dire une passion fixe, là La haine ne connaît plus de bornes.
Oui, parce que je crois que cette histoire d'indication du destin, c'est une indication de gratuité. C'est-à-dire, cet éloge de la vraie richesse, de la richesse incommensurable, qui est celle de Rimbaud, qui pourtant a une vie de chien, et qui gagne son argent très péniblement, comme chacun le sait, ou devrait le savoir, est, à mon avis, un non-renoncement à la poésie. C'est pour conserver cette extraordinaire gratuité. C'est tellement gratuit que c'est d'une richesse insondable. Hein. Je suis mille fois le plus riche, dit Rimbaud dans Une saison d'enfer. Mille fois le plus riche.
Texte auquel je faisais allusion tout à l'heure, Philippe Solers écrivain, Roland Barthes explique que vous pratiquez une écriture de vie. Et dans Vision à New York, ce livre d'entretien qui reparaît dans la collection Folio, enfin qui a été republié en 98, qui date de 81, entretien avec David Eman, il y a un appendice, une sorte de flashback, qui est un premier entretien plus ancien de 1975, où il est question de l'écriture et de la vie. Vous dites qu'on ne peut pas séparer la vie de ce qu'on écrit. Je pense, je vous cite, que nous devons rappeler avec une rigueur extrême que tout coûte quelque chose.
Mmh. Oui, parce que c'est polémique par rapport à, vous savez, il faut choisir entre l'œuvre et la vie, entre l'apparence et le fond, entre ceci et cela. Et ça, c'est le catéchisme de l'art comme sacrificiel, comme renonciation, comme... voilà. C'est très polémique chez moi, ça, parce que j'ai la conviction, expérimentale en plus, prouvée par les faits, que le fait d'écrire transforme la vie. Et qu'il y a comme une expansion de la fiction qu'on écrit dans la vie réelle. C'est ce que j'essaye de dire. La plupart des livres, les romans récents, commencent par une situation fermée, invivable, où après tout on pourrait en finir assez vite. Pourquoi rester dans ce mensonge ou dans cette prison? Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le livre avance, eh bien, des situations se créent, des rencontres ont lieu, et on voit qu'après tout... voilà, on peut vivre encore mieux qu'on le croyait. Et que donc, si on s'était supprimé, ça aurait été une erreur parmi d'autres.
On n'est pas très loin de l'éloge de la richesse dont on parlait il y a un instant. Hein, quand vous écrivez, par exemple, on ne peut rien écrire de valeur si ça ne trouve pas un écho extrêmement précis, qu'il soit douloureux, fastidieux, terrifiant ou très agréable, à quelque chose qui se produit dans le réel.
Oui, c'est ça. Ouais. Il faut cette espèce de négativité pour atteindre la vraie richesse, qui peut se contenter de très très peu de choses, puisqu'elle se passe immédiatement dans la plus grande proximité. Je crois que le mensonge social est organisé pour éloigner les êtres humains d'eux-mêmes, de ce qu'il y a de plus proche pour eux, de la proximité même, leur faire oublier qu'ils sont là tout de suite, en présence du réel qu'ils n'osent pas voir. Nous passons à côté sans cesse de la richesse absolue. Ça, c'est un peu Héraclite, vous savez, qui dit que les ânes laissent l'or et prennent la paille.
David Eman vous demande si vous savez où vous allez. C'est une très bonne question. Pour terminer un entretien, là, on ne fait que commencer, rassurez-vous, on ne va pas s'arrêter là. Et vous répondez que vous ne pouvez pas savoir, ça, vous répondez ça en 1975. Hein. Après tout, dites-vous, si je le savais, je n'irais pas. Je vais parce que je ne sais pas où je vais.
Oui, je crois.
Mais en 2000,
c'est chaque
en
fois,
2000 vous répondriez
pareil. C'est pareil, oui, je ne sais absolument pas. Ça dépend de la, du moment où j'aurais trouvé la première phrase du livre suivant. Je tourne autour et elle n'est pas encore là, et donc je ne sais pas. Mais tout dépendra de cette première phrase. Chez moi, c'est absolument évident. Alors, une fois que la première phrase est là, ben après tout, le temps peut s'écouler. Mais il s'écoule autrement que si je ne l'ai pas écrite, cette première phrase-là. Alors, dans Passion fixe, si je me souviens bien, ce mois-là, novembre ou décembre, j'avais vraiment décidé d'en finir. Voilà. Au studio, j'ai rarement été aussi seul, point. J'aime ça, quoi. Et de plus en plus, quoi. Voilà.
Bon. Mais ça, c'est dans les livres, mais dans la vie, vous savez.
Mais c'est ça, immédiatement, c'est la vie elle-même qui est là. Il n'y a pas de vie sans phrase, pour l'être dit humain. Et le curieux, c'est qu'il ne s'en rend pas compte, parce qu'il ne s'entend pas parler, il dit à peu près n'importe quoi, il rêve, il se souvient à peine de ce qu'il a rêvé. Vous savez qu'il y a des divans pour apprendre un peu à s'y reconnaître dans ce brouillamini que sont les pulsions diverses.
Vous y allongez, vous, sur ces divans?
Non, je me couche par écrit. Je me couche par écrit. Et c'est une autre façon d'être couché, croyez-moi. Le sommeil intervient et quelque chose de plus profond que quelque chose qui s'adresserait à quelqu'un, à une écoute qui vous renverrait votre discours. C'est autre chose. Mais enfin, ce n'est pas sans la possibilité de ce qui se passe dans la psychanalyse que je prends mes marques. Hein, voilà. Ça permet de relire énormément de choses sous un jour, par exemple, nouveau.
Mais si vous ne savez pas où vous allez, c'est pas vous vraiment qui avez décidé de vos livres, ni de votre vie,
oui,
de cette vie-là.
C'est une expérience, franchement. Hein, voilà. Une expérience constante, parce que, encore une fois, pendant qu'on est en train d'écrire, des choses se passent. On rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés sans ça.
Tous vos livres et vos prises de position creusent une sorte de malentendu qui s'accroît d'ailleurs, hein, avec les autres au fur et à mesure que vous publiez. Parce que justement, comme vous le dites vous-même, vous avez donné de grands espoirs à la culture française et ces espoirs, il semble que, en ont déçu quelques-uns. Alors, pourquoi pas un retrait réel dans la forêt ou dans la montagne?
Eh bien, parce que ce serait une erreur stratégique.
Ah,
c'est la guerre. C'est-à-dire que ça serait faire entrer l'adversaire dans une surveillance encore redoublée. Il n'y a pas d'exil possible aujourd'hui, il n'y a pas de retrait possible. C'est très vanté, les silencieux, les retraités, les hommes de l'ombre qui ne seraient jamais parus à la télévision, à la radio, n'auraient rien fait. Et c'est très très vanté par les marchés financiers aussi, ça. Parce que ça vous donne de la profondeur, ça vous donne une stature, ça vous donne en effet une valeur d'exemple. Oui, je connais le discours. Eh bien, à mon avis, on est d'autant plus repérable qu'on se croit dans le retrait. D'abord, on s'enferme très vite dans des considérations inutiles. Prenez par exemple, si vous passez 3 mois à la campagne, quelque part isolé, les choses de l'extérieur prennent beaucoup trop d'importance. Beaucoup trop. Un coup de téléphone devient un événement, le courrier aussi, la moindre irruption dans votre vie de quelqu'un qui passerait par là prend des proportions apocalyptiques. Donc il faut vivre comme un poisson dans le poison, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire il faut se cacher en plein jour, il faut être... Je suis profondément dans le retrait, ça a l'air d'un paradoxe, mais je le maintiens. Je suis quelqu'un qui est très 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 en retrait.
Mais d'ailleurs, dans Vision à New York, vous dites que vous avez toujours aimé être seul, que vous adorez ça et que vous feriez un moine très acceptable.
Oui, voilà, un moine très acceptable, à condition, premièrement, de ne pas être avec d'autres moines. C'est pour ça que non, vous prenez la peinture chinoise que j'aime tant, ou la poésie chinoise. En général, le type, il est, à ce moment-là, c'était encore possible. C'était pas possible. Autrement, on était exécuté. Enfin, on risquait sa vie à vivre dans l'Empire, enfin, près de la cour de l'empereur. Et combien d'exécutions de poètes ou de philosophes, taoïstes ou autres. Bon, mais en général, le type est tout seul, il est peint tout seul, en pleine montagne, mais enfin, il est des moines comme ça, bon, dans la tradition occidentale, ça n'existe pas. Mmh. Type tout seul, quelque part. Ouais.
Mais vous ne souffrez pas de l'incompréhension où restent quand même vos livres, malgré ces efforts stratégiques que vous faites
Non, il y a quelque chose qui me sert, croyez-moi, dans la façon dont je me débrouille et dont je peux éventuellement naviguer dans la désinformation, l'illusion, les images successives et changeantes que je provoque. Il y a là quelque chose qui est ma technique à moi, je la conseille à personne, ce n'est pas une règle. Mais moi, je fais comme ça. Il y a plusieurs écoles. On peut en effet, pourquoi pas, se retirer complètement. Et faire profond en apparence. Mais moi, j'aime bien le malentendu aussi. J'aime bien qu'on me prenne pour un autre. J'aime bien qu'on se méprenne sur moi. C'est comique. Puis en plus, je suis au travail. J'observe, j'ai une attitude assez trompeuse, un corps utilisable, assez trompeur. Et puis, je peux observer les coulisses de la formation, tout ça.
Pour revenir au monastère, au ciel, Philippe Solers, dans Vision à New York, Vision d'ailleurs, on peut remarquer le titre, vous parlez d'un point magique qui m'intéresse. La vie n'est pas ce qu'on croit, écrivez-vous, et la mort non plus. Et si le théâtre est donc truqué, faussé à la base, il faudra faire attention, très attention, à préserver contre tout et tous ce point d'infini, ce point magique.
Oui, oui.
La magie est entrée en moi, elle m'a fait savoir son pouvoir.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une expérience, encore une fois, ça. C'est dans la préface, je crois, oui. Où je dis comment, un jour, je me suis trouvé devant... une expérience qui revient assez souvent, d'ailleurs, dans mes livres, cette espèce de décalage brusque, les lettres qui se mettent à tourner ou à vivre de leur propre vie. C'est l'expérience la plus proche de ce que je vis là, qui m'est arrivée plusieurs fois, qui se reproduit, d'ailleurs. Bizarrement, comme une hallucination, ça n'est pas une encore, mais ça pourrait l'être. C'est ce que raconte Giacometti souvent. Il était au cinéma et brusquement, il voit plus rien que des taches. Il se retourne à droite à gauche, il voit que les gens continuent à regarder un film. Lui, il voit plus rien. Il sort très, très, très ému de ce genre d'expérience. Voilà, ça m'arrive assez souvent. J'observe que tout le monde continue à regarder comme s'il se passait quelque chose, alors que moi, je ne vois plus rien du tout. C'est comme s'il ne se passait plus rien. Ce qui m'étonne, c'est que ça n'arrive pas à tout le monde, mais enfin, après tout.
Est-ce que la musique n'est pas une bonne conductrice de cette magie?
Oui, la musique avant tout, bien sûr. Oui. Comme dit Mozart, c'est... Oui, nous passons, grâce à la musique, dans la sombre nuit de la mort.
J'ai remarqué que dans l'année du Tigre, le journal de 98, il y a autant de notations consacrées à la musique que vous écoutez, à la radio ou sur disque,
qu'à
l'observation de la météo.
Hein. Oui, c'est ça. Mais oui, parce que c'était... Je suis très... très... Ça vient peut-être de mes marins qui étaient... qui était dans la famille et à vrai dire, je sais pas, ça doit être un legs comme un peu absurde. Je suis immédiatement sensible au temps qu'il fait et je sais pas pourquoi j'ai envie de le noter pour faire sentir qu'un jour c'est beaucoup beaucoup de temps. Il y a un livre de moi qui s'appelle Le cœur absolu où j'ai fait comme ça le relevé. Enfin, comment on fait avec le temps, hein? Où en sommes-nous avec le temps? Comment vit-on? Je crois que c'est important, y compris dans les, dans la passion amoureuse, le temps change totalement. Vous avez des désirs, vous n'en avez pas. Le temps n'est pas le même, hein? C'est bien évident. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jour? Qu'est-ce que c'est qu'une semaine? Qu'est-ce que c'est qu'un mois? Qu'est-ce que c'est qu'une année? Moi, ça me paraît pas du tout évident. On met des dates là-dessus, mais bon, je vois bien que le calendrier file. Mais j'ai des doute sur, sur la façon de, que nous avons de calculer le temps. Time is money. Et moi, je pense qu'en effet, cette réduction du temps à l'argent, c'est pour ça que les marchés financiers sont là tout le temps en train de vous parler d'eux-mêmes pendant que la vie humaine est censée ne plus avoir d'importance.
Dans Passion fixe, le roman qui vient de paraître, vous dites que pour savoir où on en est avec quelqu'un, il suffit d'écouter de la musique ensemble. Le moindre désaccord nerveux vient faire tâche dans les intervalles, mais si le son passe sans rencontrer personne, c'est le signe que tout va bien. Mm-hmm. Et puis il y a, dans ce roman, un héros réel qui est Glenn Gould, qui, dites-vous, a introduit la métaphysique dans les disques.
Oui.
Pas dans la musique, dans les disques.
Oui. C'est-à-dire, le cas de Glenn Gould est tout à fait intéressant pour ce qui est, en effet, du retrait en pleine lumière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a compris, au détour des années 60-70, que le concert n'était plus possible. Enfin, il y a une pianiste qui pense exactement ça, une musicienne, elle serait furieuse si je l'appelais une pianiste, elle ne supporterait pas, qui est Martha Argerich, qui a exactement le même problème. C'était, on ne peut plus donner de concert, c'est pas possible. Alors il s'est enfermé, comme vous savez, il a fait ses enregistrements absolument magnifiques, et puis il a fait filmer aussi sa façon de jouer. Il s'est concentré dans l'exécution la plus concentrée possible, la plus méditée possible, la plus pensée possible du son au moment où il le touchait. Il y a un roman que je cite dans Passion fixe, tout à fait drôle, amusant et très très profond de Thomas Bernhardt, qui s'appelle Le Naufragé, qui raconte comment Glenn Gould vivait selon deux témoins qu'on peut attribuer à l'imagination de Bernhardt. Mais c'est tout à fait étonnant.
Et puis il y a un personnage aussi dans Passion fixe qui incarne à sa manière la musique, c'est Clara.
Oui,
qui est une amie de Dora, on verra qui est Dora.
Dora est le personnage principal, elle est avocate, oui. Et elle a une amie qui s'appelle Clara, qui est musicienne, c'est-à-dire qu'elle joue du piano.
Alors on veut toujours voir qui cache un personnage, on dit justement que ça serait Martha Argerich.
Non, oui, c'est absurde le coup des clés, parce que quand on écrit, il y a plusieurs identités. Mais une des possibilités d'interprétation de ce personnage, c'est en effet Martha Argerich. Ou alors Clara Askill, si vous voulez, puisque c'est Clara qui était une musicienne absolument de génie.
On écoutera Martha Argerich tout à l'heure, mais pour commencer, c'est pas Glenn Gould que vous avez apporté.
Non, je voudrais une déclaration philosophique, c'est-à-dire, c'est Ilia Bartoli qui a réinventé dans la voix le style le plus étourdissant, vous allez voir, de Vivaldi, dans une cantate qui chante la joie, la jubilation sadique, enflammée, de voir qu'il y a une tempête et que tout le monde va faire naufrage. Vous allez l'entendre, écoutez bien quand elle dit « naufragar », avec quelle joie qui applique une cruauté sans limite. Ha ha ha!
C'est ce que vous chantez, Philippe Soler, sur les plages de l'île de Ré, quand vous y êtes en solitaire?
Oui, ça c'est ce qu'on peut appeler déchirer l'espace. Il y a un entretien que j'ai écouté de Bartoli, Cecilia Bartoli, extrêmement amusant, où elle dit que, qu'elle a aimé chanter certains rôles de Mozart. Bon, ça c'est une cantate de Vivaldi, c'est la Venise de la guerre, hein, vraiment magnifique. Et elle dit à un moment donné, mais il y a un rôle que j'aimerais chanter, mais malheureusement je ne pourrais pas dans cette vie. C'est le Don Juan de Mozart. Elle aimerait chanter ça. Là, on atteint dans la voix une telle intensité, une telle virtuosité. À mon avis, elle est en train de réinventer quelque chose dans le chant, de même qu'il y a eu brusquement l'apparition dans la musique baroque de ces voix de haute contre, avec l'admirable Alfred Deller, etc. Et ensuite, James Bowman et bien d'autres. René Jacobs, etc. Jean-Loup Charvet, qui est mort il y a 2 ans, dont vient de paraître un livre extraordinaire chez Desclés de Beauvert qui s'appelle « L'éloquence des larmes », qu'il faut absolument lire parce que c'est un livre bouleversant. Et voilà, pour moi, ce sont des saints, ces gens-là, vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas la moindre erreur. Les musiciens sont des personnes que j'estime au-delà de tout. Je crois qu'on peut faire beaucoup, on peut tricher beaucoup. On peut faire semblant d'être écrivain, poète ou même peintre désormais. On devient animateur culturel, on fait semblant, on peut tricher. Mais quand il s'agit de faire ça, là, vous le faites ou vous ne le faites pas. Pareil avec le piano, c'est-à-dire, je trouve que les musiciens sauvent le monde. Mmh.
Vous ne trouvez pas une telle impulsion de vie dans la littérature?
Si, si, bien sûr, chez certains, oui. Si, quand c'est vraiment à un certain niveau, c'est d'ailleurs la musique. Je suis un inventeur, bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. un musicien même, qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Voilà. Ça, c'est du Rimbaud que vous avez reconnu. Un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé, un musicien même, qui ait trouvé quelque chose, quoi ? La clé de l'amour. Bon. L'amour, la musique, c'est vraiment très très proche. L'amour, c'est un art de musique. C'est comme, comme on dit de l'alchimie, c'est l'art de musique. Eh bien, c'est l'art royal, si vous voulez. Et la poésie, l'amour, la liberté, vous l'entendez dans cette cantate. Et dans la vie, il faudrait autant que possible que ça y ressemble. Quoi. Mmh. Sinon, c'est fermé.
La poésie, alors, moi j'attendais de vous, Philippe Solers, une plaquette d'une vingtaine de poèmes, et ça aurait été un événement, et vous publiez un roman.
Oui.
Passion fixe.
Oui, parce que je veux faire sentir, à travers le roman, pourquoi on ne peut pas écrire de poèmes. Et pour défendre la poésie.
C'est un acte,
encore une fois, polémique. C'est-à-dire, je veux décrire la situation de la société où nous sommes, où la poésie est devenue quelque chose d'absolument impossible, sauf à la vivre d'une certaine façon. Et ça se raconte. Ça n'est pas la peine de faire des poèmes d'un côté et de vivre autrement qu'en poésie. J'essaye de raconter par le roman comment on peut habiter poétiquement en ce monde, comment on peut se conduire poétiquement. Et pour ça, il me faut, en effet, des passions. Vous avez entendu la passion de Martelly. Il me faut quelque chose comme de la flamme ou vraiment une passion érotique, réelle. Voilà. Les poèmes sont pas à la mesure du désir. La musique savante manque à notre désir. Voilà, il faut retrouver. Il y aura peut-être des poèmes un jour qui seront grandioses. Pour l'instant, je ne les vois pas et j'écris des romans, non pas pour m'en consoler, mais pour essayer de tenir cette ligne démonstrative.
Donc vous attribuez encore une force à ce vieux genre littéraire. Le roman.
Bien sûr, oui, mais il y a des gens qui vous diront que ça n'est pas un vrai, que c'est pas comme ça qu'on fait des romans, que c'est pas fabriqué comme un roman, que ça a l'air s'il n'écrit pas de roman.
C'est un vrai roman?
Mais oui, c'est un roman comme je le conçois, moi, et non pas comme le produit préfabriqué que vous avez partout dans les librairies, en général. C'est-à-dire, on vend des romans, je me moque de la fabrication des romans, ça tient pas le coup. Moi, j'essaye que ça tienne le coup d'une autre façon.
Il y a un mot que vous employez souvent pour légitimer, au fond, le roman, c'est l'expérience.
Oui. Ça se sent, ça, vous savez, tout de suite. En réalité, c'est une voix, le roman. C'est une voix qui peut conjuguer des voix multiples, mais c'est une voix. Vous entendez quelqu'un, vous ouvrez un Beckett, vous avez la voix de Beckett, qu'on n'a pas enregistré, mais vous ouvrez Joyce, vous avez la voix de Joyce. Alors, est-ce que c'était un roman? C'est un roman monstrueux, Ulysse. Ce matin, il y a un portrait de John Irving, fabricateur de romans. Vous avez ça dans Libération. Et à la fin, le type lui demande, et alors, Ulysse de Joyce, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'autre réponse, c'est bullshit, c'est de la merde. Bon. C'est fait pour les étudiants, je ne vais plus à l'université. C'est monstrueux, comprenez, c'est monstrueux qu'on puisse dire une chose pareille.
Quand on lit Passion fixe, on a l'impression que ça coule au fil de la plume. Et en fait, le fil est plutôt à retordre. J'imagine que c'est le film de l'équilibriste avec sa bonne dose de risque. Puisque c'est plein de ruptures aussi, de chutes. Hein, oui. La difficulté est maximum. Et l'enjeu, c'est seulement raconter.
C'est raconter la façon dont on peut vivre poétiquement. Mais ça, c'est une corde raide, mais il faut le prouver. Je n'ai pas l'impression de prouver que ce que je suis en train de vivre si j'écris un poème. Voilà. C'est très simple. Je veux que ce soit en situation, avec une expérience physique, des relations qui m'intéressent beaucoup entre hommes et femmes, parce que je crois qu'il y a là un très gros tabou, malheureusement, invisible, comme si tout se passait bien, alors que c'est pas ça du tout. Et comment est-ce qu'on peut faire avec cet interdit-là, hein ? Il n'y a pas de chose plus refoulée, à mon avis, que les relations subtiles, insidieuses, tendues, détendues, asociales, fondamentalement asociales qui peuvent se nouer entre un homme et une femme. C'est immédiatement... Si rencontre il y a, qui est finalement assez rare, il peut y en avoir plusieurs, si rencontre il y a immédiatement quelque chose qui échappe au contrôle social. Et donc, c'est très mal ressenti, parce que ça se sent, ça se devine. Et ça va au contraire de tout ce qui est prôné par la publicité, la littérature, les romans, le cinéma, etc. C'est très très rare, la rencontre et ce qui va s'en suivre. C'est-à-dire, quand même, quelque chose qui prendra la forme d'un roman, qui pourra raconter éventuellement la poésie extrême qui se dégage de cette expérience très intime.
Mais vous, Philippe Solers, vous parlez du roman comme voie vers le dépassement de la métaphysique, pas dépassement de la poésie.
Non, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait retenir l'attention dans toute l'œuvre de Heidegger, par exemple. Le dépassement de la métaphysique, c'est quoi? C'est l'acheminement à la parole, faire arriver la parole à elle-même en tant que parole. Et sur quoi il s'est appuyé, ce penseur du dépassement de la métaphysique, ignoré comme tel, parce que personne ne parle de son œuvre gigantesque après la guerre, comme par hasard.
Il faut dire qu'il a quelques ennemis.
Oui, c'est ça. Mais c'est très intéressant. Parce que comme ça vient tout le temps, comme une réitération de du même stéréotype qui a été analysé 10 fois, et on peut le réanalyser tant qu'on veut, mais comme il n'y a que ça à propos de Heidegger, ça m'intéresse beaucoup, parce que sur quoi Heidegger s'est-il appuyé sinon précisément pour penser sur la poésie. Hölderlin, c'est un livre absolument magnifique, sans parler du Nietzsche. Alors là, une telle animosité me paraît davantage désigner ce qui gêne, c'est-à-dire penser sous forme poétique, c'est-à-dire en tant que la poésie, on établit un dialogue avec elle. C'est ça qui... Vous voyez, on organise la misère de la poésie pour empêcher qu'elle puisse se traduire en pensée ou en récit. C'est là où...
Il y a quand même eu quelques éclats dans l'autorité du philosophe.
Oui, mais ça n'est, on n'est plus dans la philosophie déjà, là, on est dans une autre expérience. Et c'est... Comment dire... La poésie doit surgir des moindres choses, enfin de la vie courante, de la moindre expérience. Je crois que les livres que j'écris en sont pleins de ces petits micro-événements. Boire un verre d'eau à 4h du matin, de marcher à quatre pattes dans un couloir parce qu'on est un peu abruti ou de... Il faut raconter des expériences, de hashish ou des expériences érotiques. C'est pour ça qu'il y a aussi... Je crois que Bataille a dit les choses essentielles aussi là-dessus. C'est-à-dire dans une solitude quasiment effrayante à la fin de sa vie. Haine de la poésie est un livre splendide. Haine de la poésie, ça veut dire un amour extrêmement violent de la poésie, mais haine de ce qui se prétend poésie. L'amour de la poésie doit venir d'une haine profonde pour tout ce qui usurpe cette position. Et Dieu sait qu'elle est usurpée et qu'elle est prébordisée pour l'être. Enfin, c'est très très... C'est une chose que je ressens profondément.
Si on disait un mot de la forme de Passion fixe, parce que bon, le livre est organisé en plusieurs chapitres, composés chacun de fragments.
Ce sont des paragraphes. Ça commence par un récit de forme classique, presque comme un roman policier. Puis ça continue avec des rencontres. Et puis tout à coup, il y a des preuves qui arrivent comme ça dans le discours. Le type se trouve dans une maison de campagne, emmené par une avocate qui s'appelle Dora, qui possède une grande bibliothèque de manuscrits anciens. Et donc les livres se mettent à... C'est des livres qui commencent à lui parler, à lui. C'est pas lui qui lit des livres. Les livres s'ouvrent comme par magie, et les passages conviennent, vous voyez. C'est-à-dire, il tire un livre, c'est Cyrano de Bergerac, et Cyrano de Bergerac brusquement se met à vivre. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. La bibliothèque est aimantée, c'est un champ magnétique, et brusquement, on trouve, on ne cherche pas.
Vous écrivez avec ce que vous avez sous la main.
Oui, non, j'écris avec tout ce qu'il est possible de faire venir comme preuve. Il faut pas, ce ne sont pas des citations.
Il y a des citations.
Il y a aussi des citations.
On vous les reproche d'ailleurs.
Qui sont utiles, disait Debord. Oui, on les reproche parce qu'on ne sait pas les lire, parce qu'on ne voit pas pourquoi elles sont choisies de façon aussi pertinente, de façon tellement plus pertinente, disait Debord, de façon amusante, que ne pourrait le faire un ordinateur. C'est le reproche que fait à travers les individus. Le reproche, en effet, est un reproche que m'adresse l'ordinateur à travers les personnes qui disent que, en effet, il y a des citations. C'est l'ordinateur ne pourrait pas combiner une telle pertinence parce que pour que ça vienne, il faut un choix extrêmement au scalpel. C'est vraiment de la microchirurgie. Il faut que ça vienne. Vous comprenez? C'est ça le problème. Alors c'est Debord, oui, qui dit que, ben, évidemment, dans les époques d'ignorance ou de croyances obscurantistes, c'est-à-dire la nôtre. D'ignorance, de croyance obscurantiste, les preuves, les citations sont nécessaires. Parce qu'on doit prouver des choses. Et vous savez quel virtuose, je l'admire beaucoup pour ça, quel virtuose c'était pour savoir choisir pertinemment les citations qui échappent au contrôle de l'ordinateur.
Donc, c'est bien mon problème. Comme dossier d'instruction d'un procès.
Oui, c'est une plaidoirie.
Définitif. Et justement, oui, c'est pour ça que l'héroïne est une avocate.
Le roman est une plaidoirie. D'ailleurs, c'est pour ça que le personnage féminin est une avocate. C'est-à-dire, se présente en défense. C'est en effet, pas seulement.
L'avocate, c'est-à-dire quelqu'un dont le rôle consiste à montrer que son client est innocent et non pas coupable.
Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup cette anecdote. C'est Truffaut interrogeant Hitchcock à propos de I Confess, à propos de tous ces films. Il dit, voyons, est-ce que votre éducation n'a pas pesé sur vous ce sentiment du péché qu'on a dans votre œuvre? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là un vieux fond catholique, anglais, un élève des jésuites, Hitchcock? J'adore ce type au cinéma, pour des tas de raisons. Et alors, Hitchcock lui répond, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je passe mon temps à faire des films pour montrer un homme innocent dans un monde coupable. Et c'est vrai, si vous regardez tous les films d'Hitchcock, vous avez un personnage brusquement jeté dans une situation absurde, où on essaye de le tuer, dans North by Northwest, par exemple, avec Cary Grant, qui est admis, passage fameux. C'est quelqu'un qui est jeté dans un monde où on le prend pour quelqu'un d'autre, où on l'accuse de on ne sait trop quoi, etc. Et alors le film se déroule, voilà. Donc l'important, c'est de montrer que le monde est coupable et qu'il peut y avoir des innocents. Mais c'est le monde qui est blâmable, ce ne sont pas les innocents.
Mais alors là, l'histoire est située après 68, après les événements.
Oui.
Et donc il y a un certain décalage par rapport à l'époque actuelle, une trentaine d'années. Mm-hmm. Et votre héros a, lui, 23 ans. Hein. Mm-hmm. Mais c'est étrange parce qu'on lui en donne plus.
Oui.
On lui en donnerait facilement 40 de plus.
Oui, c'est ça. Ça prouve qu'il n'a pas vieilli. C'est ça que vous voulez dire.
Par exemple, il a, juste après 68, il a connaissance du Viagra qui pense.
Oui, ça n'a pas tellement d'importance. Ouais. Hein. C'est pas. Parce que si c'était 68, la barbe, 68 tard, etc. Non, il s'agit d'une situation générale. C'est-à-dire, bon. Pour faire l'histoire des 30 dernières années, on va pas la faire sur des détails d'actualité. On va la faire selon la sensation plus ou moins grande qu'il y a ou pas de liberté. Mmh. Je prétends, je ne suis pas le seul, qu'il y a eu une très grande explosion de liberté dans ce qu'on appelle 68, que le spectre agite encore des peurs diverses. On essaye d'oublier. Et que, à partir de là, bien, il y a eu une régression. Je trouve qu'on est dans une société de conformisme aggravé et de surveillance néfaste.
Oui, ça, vous le dites.
Voilà, je le dis, je le répète.
Et cet homme, donc ce narrateur, il a à peu près l'âge que vous aviez quand vous avez créé Tel Quel.
Oui, c'est ça.
Sauf que c'était un peu avant, c'était au début des années 60.
Ce narrateur peut reprendre un certain nombre de choses qui me sont arrivées, qui n'étaient pas forcément visibles. Donc, ça me permet de... Vous savez, je peux prendre dans mon enfance, je peux prendre dans mon adolescence, je peux prendre au début, quand j'avais 20 ou 30 ans. Voilà, c'est ça qui est beau.
Il y a beaucoup de choses du Philippe Solaire d'aujourd'hui. Dans ce marmottement.
Oui, mais je crois que j'étais déjà comme ça. Oui, enfin, je vois pas qu'il y ait beaucoup de changements. Moi qui suis censé changer tout le temps. la cohérence me paraît fondamentale, c'est-à-dire toujours revenir à des points d'expérience précis. Voilà.
La fluidité dont je parlais de l'écriture, oui. Ça demande beaucoup de travail. Ça vient pas comme ça.
C'est les deux. Il faut que ça vienne et en même temps, enfin, ça c'est, vous savez. Bon, vous avez mis combien de temps à faire ça? Mais 3 ans, mais enfin aussi. Bon, je ne sais pas. Comme vous voyez, je n'adhère pas à l'idée de la page blanche, de l'angoisse, de c'est difficile d'écrire, Non, je crois que c'est pas comme ça, parce qu'encore une fois, comme c'est très lié à la façon de vivre, si la façon de vivre est souple et fluide, si elle est acrobatique pour essayer d'échapper en effet à l'usure qu'on veut vous faire subir, ben, ce qu'on va écrire va être comme on fait, quoi, comme on fait dans la vie.
En 75.
Si la vie est pesante, si la vie est inhibée, si la vie est et traîne les pieds, ben ça va se sentir dans la façon dont on écrit. Mmh.
Vous disiez en 75 à David Eman, donc dans un entretien repris dans Vision à New York, avancer, c'est écrire 10 lignes de plus. Et dans l'année du Tigre, c'est-à-dire en 98,
Je suis en train d'écrire Passion fixe, là. Voilà.
Plus de 20 ans plus tard, vous notez un jour 10 lignes de plus dans mon roman, une grande journée, donc. Donc vous n'avez pas fait de progrès.
Aucun. Ou alors, on peut dire que le fait de maintenir toujours cette passion fixe, là, c'était d'ailleurs finalement le mot de Barthes à mon sujet, là, quand il a écrit ce texte si gentil sur moi, mais. Mais il dit, il est bizarre ce solaire, enfin, comme ça. Alors s'il écrit 10 lignes, il est content. Hein, faut-il être absurde? Mais disons les choses, c'est une drogue puissante. C'est la meilleure que j'ai trouvée, en tout cas.
Dans l'année du Tigre, donc c'est l'année où vous écrivez ce roman, vous notez souvent l'état du projet tel qu'il se présente à un moment donné. Et le 9 avril, vous écrivez « Je reprends mon roman ». Il s'agit d'introduire la pensée et la poésie chinoise en plein dans le chaos de notre temps.
Oui, oui, je crois, oui. C'est ça. C'est-à-dire, ça c'est une vieille idée aussi, qui ne m'a pas quitté, l'histoire de la Chine. Je publie par exemple un livre qui s'appelle Nombre en 68, qui s'est terminé par des idéogrammes. Bon, la personne qui a dessiné pour moi ces idéogrammes n'est autre que François Cheng. Bon. Voilà donc une très vieille amitié. Et Cheng est en train de faire un travail absolument considérable, comme vous savez, sur la peinture chinoise. Des livres absolument admirables. L'embêtant, c'est que moi, ça me touche de façon immédiate, mais que je regrette qu'il n'en soit pas de même davantage. Je trouve ça déraisonnable. La poésie, la peinture, la calligraphie, tout ça. Et puis la façon de vivre, parce que c'est la même chose. L'art de la guerre, l'art érotique, la poésie, la médecine, tout ça, c'est la même substance. Imaginez un peu que nous, au point où nous en sommes, nous commencions à nous préoccuper du fait que faire la guerre, faire des affaires, la médecine, la poésie, la vision, ce soit une seule et même substance. Mais nous n'en sommes pas là. Tous les jours, au contraire, on sépare. On calcule dans la séparation, dans l'interdiction de franchir des frontières, dans l'interdiction de tracer des diagonales, donc d'établir des rapports. Des relations. Eh bien, quelle est la meilleure métaphore pour ces rapports ou ces relations interdites? Bien entendu, ça va être dans le fait de rencontrer éventuellement un corps avec lequel vous pouvez faire une expérience. Non, ça me semble tout simple à dire. À partir de cette relation qui déjà ne va être perçue comme scandaleuse, non pas qu'elle ait quoi que ce soit d'obscène, c'est pas ça du tout. Elle est perçue comme scandaleuse parce que cette rencontre n'a pas été préalablement calculée et adaptée à la façon dont la société fonctionne. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est que les femmes fassent auto, boulot, bébé, dodo. n'est-ce pas ? C'est le programme. Ou alors qu'elle soit arraisonnée constamment par les produits de beauté, la peur de grossir, le fait d'avoir un corps qui soit adapté au canon de leur apparence. Donc il faut qu'elle fasse tout, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle s'occupe des enfants, il faut qu'elle soit impeccable, etc. Donc c'est une façon de les charger au maximum. En plus, on les arraisonne dans la technique, c'est-à-dire qu'on leur propose le moyen, d'ailleurs souhaitable, de procréer quand elles le voudraient. Donc, vous voyez, tout ça sont des questions qui me semblent importantes à traiter. C'est pour ça que je parle beaucoup des femmes, parce que l'état d'une société, c'est l'état dans lequel les femmes se trouvent. C'est là qu'on voit la chose même, il me semble.
Donc vous avez de la suite dans les idées, c'est le moins qu'on puisse dire.
J'ai de la suite dans les désirs, oui.
La femme dans Passion fixe, c'est Dora.
Oui.
Et Dora, ça fait penser à Kafka, évidemment.
Oui, oui. Il y a un certain nombre de Dora intéressantes dans l'histoire. Il y a la Dora Maar négative de Picasso, la femme qui pleure. Voilà, là, elle est au contraire très positivée. Il y a la Dora de Diamant de Kafka. Vous vous rappelez comment Kafka est tombé amoureux de Dora ? Non ? C'est en la voyant écorchée, vider du poisson dans l'évier. C'était un grand événement, ça l'a saisi. Et c'est la dernière période de Kafka. Non, c'est un prénom très très chargé. Il faut ajouter qu'elle s'appelle Weiss et que c'est un nom qui représente quelque chose. D'où polémique immédiatement à l'intérieur du livre sur l'époque historique de la collaboration, qui est un des points les plus sombres et régurgités sans cesse de la mémoire française. Faire l'histoire des 30 dernières années, il faut se préoccuper aussi d'où cette histoire vient, c'est-à-dire de quel placard elle vient. Et en France, comme vous le savez, c'est en effet cette sombre histoire dont nous n'avons pas encore tiré, à mon avis, toutes les leçons de la collaboration avec les nazis. Et puis après, et la longue période d'intoxication stalinienne, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et alors, est-ce qu'on en sort ? Et quels sont les écrivains qui en parlent ? Bien sûr, vous avez Modiano sur cette époque-là, avec Dora Bruder, par exemple, encore une, il faut la citer. Mais vous voyez que là, j'essaye de traiter la question d'une façon plus générale, c'est-à-dire avec ce point qui est un trou noir. Alors voilà, on essaye de prendre l'histoire de ce que doit faire un romancier, non, il me semble.
L'autre femme s'appelle Clara, et alors là, on pourrait penser à Clara Askill, mais ça serait trop facile. Oui. Donc on avance le nom de Martha Argerich.
Oui, je vous ai répondu
et ça
l'heure,
serait...
qui est, à mon avis, une musicienne de génie.
Voilà. Et c'est elle qu'on va écouter maintenant.
Voilà. Thank you.
semble, Philippe Solers, qu'on a déjà répondu un peu à la question, mais si on se demandait de quoi ça parle, passion fixe, on pourrait dire...
J'essaye de parler de ce qu'on vient d'entendre. Alors, de deux choses l'une, ou bien on a écouté comme ça un fond sonore, la musique, ou bien on voit qu'un corps est en train de jouer ça. Comment est ce corps? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Vous voyez, c'est le contraire de la position esthétisante. C'est rentrer, ou de consommation culturelle, c'est le contraire. C'est-à-dire essayer d'incarner ce qu'on vient d'écouter. Alors, il va s'agir d'un personnage qui vit, qui respire, qui a telle ou telle forme physique, qui peut avoir aussi des passions, des désirs, hein, comment sont ses doigts, comment sont ses bras, comment sont ses épaules, comment est sa respiration, comment il faut faire pour arriver à une telle énergie, une telle concentration, pour ne pas perdre cette fabuleuse possibilité enfin, il faut piquer la note, hein, exactement. C'est un rapport au temps. Et alors, c'est ça qui m'intéresse chez les personnages de ce roman, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est qu'une avocate par rapport au temps, hein? C'est un temps extrêmement modifié par les interventions des adversaires. C'est quelque chose qui doit être constamment sur la défensive, puisque c'est un rôle de défense. Donc ça suppose beaucoup d'informations, beaucoup d'anticipations, beaucoup de calculs sur... C'est la guerre. Et puis pour une musicienne, c'est aussi une guerre. Mais alors là, avec cette espèce de précision dans le toucher, au service de ce que nous raconte Bach. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Jean-Sébastien, le Bach? Eh bien, alors on en joue. Et il y a des moments tellement extraordinaires dans la vie des musiciens si on les regarde vivre. C'est-à-dire, ils sont en train de faire ça et il se passe tellement de choses mystérieusement... silencieuse. Si vous demandez à une musicienne de ce niveau ce qu'elle a voulu dire, elle vous dira j'ai rien à dire, je l'ai joué. Qu'est-ce que c'était? À quoi pensiez-vous? Elle vous répondra, je pensais à la seconde même où j'étais en train de passer ma main gauche sur ma main droite pour atteindre la... Oui, d'accord. Bon, mais, alors, il faut bien... Moi, je ressens cette espèce de nécessité d'essayer de donner à ça un récit, autrement dit une pensée. C'est-à-dire, c'est comme pour la poésie, la musique c'est ça, ça ne va pas sans dire. Ou alors on écoute, comme ça, de la musique, oui, si vous avez... Mais on écoute, ça ne suffit pas pour entendre. Et puis entendre, s'apercevoir qu'on a des oreilles, puis que ces oreilles, à quoi sont-elles sensibles, comment trier les voix. Je suis malade du bruit, du bavardage ambiant, donc, dans lequel je me plonge exprès, parce qu'il faut, encore une fois, être dans le poison. Bon, si je parle du système, les marchés financiers, c'est que j'écoute, par exemple, si je suis à New York, l'émission phare de la planète qui s'appelle Moneyline, où vous voyez des filles énergiques avec des mâchoires, des bodybuilding derrière elles, des séances de gymnastique. Vous récitez sans arrêt ce qui est en train de se passer dans la recapitalisation et le transfert électronique des sommes d'un bout à l'autre de la planète. Alors, nous vivons ça tous les jours. L'affaire Elf nous envahit. Nous parlons de quoi? Bon, vous mettez ça en rapport avec simplement la suite anglaise numéro 2 de Bach, tout à coup. Il s'agit de voir l'abîme. C'est ça la question, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'aliénation contemporaine? À quoi l'être humain est-il réduit? Qu'est-ce qu'on lui demande d'être? C'est-à-dire, indéfiniment remplaçable, tout remplaçable. Être, c'est être remplaçable. Voilà. Vous n'avez qu'à... Et ce n'est pas sérieux de ne pas traiter la question, de raconter des histoires sans se placer au cœur même de cette espèce de réduction. Et puis, alors, à partir de là, vous pouvez faire sortir, ou essayer de faire sortir, les attitudes ou les comportements, les gestes, la façon d'exister qui peut passer à travers ça sans se faire avoir.
Donc, dans Passion fixe, le temps... Et la substance.
Oui, c'est ça. C'est le temps lui-même, oui. C'est ça. C'est le temps en tant que La plupart des humains, ça m'étonne toujours, ça stupéfiait Pascal, il dit il y a quelque chose de surnaturel dans cette affaire, c'est pas possible, c'est une hypnose, enfin, comment se fait-il qu'il y ait un test somnambulisme. Vous voyez, je prends quelqu'un d'avant l'époque financière où nous vivions, c'est étonnant, pourquoi la mort, ils y pensent pas, pourquoi, et alors la vie là, qu'est-ce que c'est, je sais pas, très bien, oh c'est passé, tiens, on meurt, voilà.
Donc, vous parlez du temps qui passe, même si c'est à partir de fragments qui s'accompagnent nécessairement de discontinuité. Mais le temps, dans Passion fixe, c'est aussi aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui où la liberté est l'ennemi public numéro un. En tout cas, c'est ce que j'ai cru lire en toile de fond dans ce roman.
Oui, l'amour, la liberté, la poésie. Il y a un hommage à Breton qui ne vient pas là tout à fait n'importe où. Et Breton, c'est la même substance, c'est l'amour, la liberté, la poésie. L'amour doit déboucher sur la liberté, la poésie débouche sur la... Bon, c'est la même chose. C'est la dédicace dont je suis le plus fier, en fait. C'est la réédition des Manifestes du surréalisme de Breton en 62, où il a écrit sa fine écriture bleue à Philippe Solers, Aimé des fées, F-E-E-S. Bon. Et ça, c'est un talisman pour moi, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'important.
D'ailleurs, Breton est bien à sa place dans Passion fixe aussi.
Oui, c'est ça, il est là. Il est pris au sérieux. Il est là du côté du Pont Neuf, sur lequel il a écrit un texte absolument magnifique, qui est dans la Clé des Champs, je crois. Et qui mentionne cet endroit comme étant très chargé. Vous savez, Breton avait... Ça, c'est un peu la psychogéographie telle qu'elle a été poursuivie aussi par les situationnistes au demeure. Les lieux sont très, très, très aimantés. Enfin, les morts sont là, il y a quelque chose qui ressort. Enfin, on peut être à Jérusalem, on peut être à Venise, on peut être à Paris, dans le cœur de la cité. Tout à coup, vous sentez ou vous ne sentez pas. Vous pouvez passer très vite et sans vous rendre compte que ces lieux vous parlent. Alors, autrement dit, que les morts voudraient vous parler. Voudraient vous communiquer quelque chose. Ou les livres voudraient vous dire quelque chose. Ou les musiciens voudraient vous dire quelque chose. Vous voyez, la richesse dont on parlait tout à l'heure, elle est là. C'est une richesse énorme. Et tout le monde passe à côté.
Mais les personnages de Passion fixe sont pris dans le temps et en même temps, ils se perdent. Ils se retrouvent, leur expérience du temps est sans cesse morcelée, brisée.
Oui, parce qu'ils misent comme des joueurs, ils misent sur un temps qui n'est pas celui de la pénitence du temps. Ils misent sur un temps, disons, extatique. C'est-à-dire, écoutez, quand on est dans une passion amoureuse... Je ne sais pas, enfin, tout le monde me comprendra. Il me semble que le temps change de nature. Il y a des instants qui durent très longtemps, ou alors de très longs jours qui passent comme 10 minutes. C'est comme le rapport à la musique.
Ouais. Mais cette violence-là est plus forte que celle que vous dénoncez à longueur de page sur le contrôle, la surveillance.
Oui, mais il faut que les deux choses, il faut que les deux soient rapprochées. Il faut montrer, si vous voulez, il faut décrire ce que la société a comme but, c'est-à-dire la remplaçabilité générale, et vous n'avez pas de temps à perdre, et encore une fois, auto, boulot, bébé, dodo, je parle pour le programme des femmes, et puis il faut montrer par rapport à ça quelque chose, encore une fois, qui soit en abîme, c'est exactement comme Moneyline et Martha Argerich jouant la suite numéro 2 de Bach. Il faut produire cet effet, parce qu'il me semble probant.
Mais je remarque, Philippe Solers, que le temps de Passion fixe, c'est quand même, dès le départ, un lendemain, hein, puisqu'on est après les événements de 1968, dans le chaos, une sorte de chaos.
Dans la régression, dans la remise en ordre.
Et un lendemain de révolte sans lendemain.
Ah, mais ce lendemain va durer très longtemps. Ce que le livre dit, c'est que l'ordre règne. Le livre commence comme ça. Il y a eu une explosion, elle a été très 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 mal ressentie par les propriétaires du monde, c'est le cas de le dire, et que donc à partir de là, il va y avoir un ordre extrêmement massif en train de s'organiser. C'est, je crois, je n'invente rien, c'est vraiment la sensation que tout le monde a, je suppose, en voyant la puissance du système planétaire en cours. Bon. Donc la question là, c'est une question de durée. C'est-à-dire que pour préserver la liberté. Il faut s'organiser autrement. Il n'est pas question d'aller faire une révolte qui serait massacrée tout de suite, frontalement. Il faut donc prendre son temps. Et dans le bon temps. Pas dans le bon temps d'autrefois, dans le bon temps immédiat. C'est-à-dire aujourd'hui même, ce soir, et demain, mais demain est un autre jour, et puis après il y a un autre jour, mais donc on compte autrement. Voilà. On est tout le temps dans le temps.
Alors on est dans le temps, dans le mouvement, c'est-à-dire aussi dans l'interruption, dans le morcellement.
Mmh. Oui, mais la passion est fixe à voilà. travers le morcellement, merci.
J'allais vous le dire. J'aurais dû commencer par là.
Voilà.
Pourquoi vous l'avez appelé passion fixe, ce livre ?
Eh bien voilà, nous y sommes, précisément parce que quelque chose dure, qui ne devrait pas durer, voilà.
La fixité, écrivez-vous, approfondit le mouvement. C'est pas mal trouvé, cette phrase.
Voilà. Nous arrivons au terme de notre parcours. Je sens ça dans la façon dont vos lunettes glissent lentement.
Et pourtant,
vers le bout de votre nez.
J'avais encore tellement de choses à vous dire. De Philippe Solers, Passion fixe, est publié chez Gallimard. Les autres livres dont nous avons parlé, en poche, Casanova l'admirable, en folio, Vision à New York, en folio, et L'année du tigre, en point seuil. Surpris par la nuit, Jean-Claude Gauthier, Bernard Treton, Didier Pinault, Alain Weinstein.
été diffusée pour la première fois le 20 mars 2000.
Like a stray dog, you've been left to die by the side of that old road with the dirt in your eye. You're on your own, you've been cast to the side like something gone old, like something undecided. The rain will fall like a ray through the fog to clear away the smog, chase away the sorrow from your heart. Like a wounded fox, you've been left in the woods with nothing but your thoughts. Build up rage, so ashamed, you couldn't stand no chance against their chains and the fire hands. The rain like a ray through the fog to clear away the smog, chase away the sorrow from your.